Et le journal vous est présenté par Hélène Philly. Bonjour Hélène.
Bonjour à tous. La forêt brûle en Californie. Le feu si gros qu'il crée ses nuages et ses éclairs alors que la planète s'épuise. C'est le jour symbolique du dépassement aujourd'hui. L'humanité a consommé toutes les ressources que la Terre peut générer en une année. La Martinique reconfinée, la Guadeloupe sous couvre-feu pour contenir la quatrième vague de l'épidémie de Covid. L'extension du pass sanitaire prendra effet le 9 août prochain. Dans ce journal, encore la réorganisation d'EDF remise à plus tard. Le dossier suscitait de fortes oppositions. Les talibans aux portes du pouvoir. On va en parler avec vos invités à 8h20, Karine.
Oui, trois invités ce matin dans le grand entretien pour tout saisir de ce qui est en train de se jouer en Afghanistan en ce moment. Nassim Majidi, qui dirige un centre de recherche à Kaboul, la capitale. L'ancien diplomate et spécialiste du pays, Georges Lefebvre. Et puis nous échangerons également avec un ancien interprète qui travaillait au service de l'armée française. Comme les autres, elle a quitté le pays précipitamment. Vos questions, vos réactions au 01 45 24 7000. Je vous donne rendez-vous à 8h20.
Grand sourire et fin à la suspense. Il aura fallu attendre la photo finish pour cette nouvelle médaille française aux Jeux Olympiques. Médaille d'argent tout à l'heure en aviron. Et une autre médaille assurée puisque les fleurettistes françaises viennent de se qualifier pour la finale.
France Inter.
La Terre s'assèche. L'humanité a déjà consommé toutes les ressources que la nature peut renouveler en un an, 5 mois avant la fin de l'année. C'est ce qu'on appelle le jour du dépassement. Et c'est un jour d'autant plus symbolique après les catastrophes naturelles des dernières semaines. Les inondations qui ont submergé l'Europe et la Chine, les incendies dans l'Ouest américain, 90 000 hectares ravagés en 2 semaines seulement en Californie, un feu si puissant qu'il crée ses propres éclairs. C'est la correspondance de Loïc Piel.
5300 pompiers, 34 hélicoptères, 420 engins incendie, 190 bulldozers. Voilà les énormes forces mobilisées pour maîtriser le Dixie Fire, déclenché par la chute d'un arbre sur une ligne électrique. La maison de cette habitante, interviewée par CNBC, fait partie des 10 000 structures menacées par le feu.
Toutes mes affaires sont rangées près de la porte. Je suis prête à partir dès qu'on en donne l'ordre. En attendant, je reste ici et je continue d'arroser la pelouse.
Le Dixie Fire dégage tellement de chaleur et de fumée qu'il génère son propre climat. Les pompiers américains connaissent bien le phénomène appelé pyrocumulonimbus. Ils n'arrivent pas à le contrôler pour autant, insiste Mitch Matlow, un de leurs porte-parole sur CBS.
Quand la fumée s'en va, le soleil commence à réchauffer le sol et les masses d'air bougent très vite. Qu'est-ce que ça signifie pour nos équipes ? Des vents qui provoquent un comportement erratique du feu.
Et rien ne va s'arranger à mesure que la saison avance, explique ce pompier californien à la chaîne publique PBS.
Toute la végétation qui est morte pendant les 10 ans de sécheresse que nous venons de traverser est toujours dans le paysage. Le combat contre le feu est entré dans une nouvelle ère. Comprendre ce nouvel environnement et s'y préparer est essentiel.
Parmi les techniques à développer, l'intelligence artificielle pour tenter d'anticiper le comportement des flammes. À Los Angeles, Loïc Perra pour France Inter.
Et l'humanité vit à crédit de plus en plus tôt, le jour du dépassement. Aujourd'hui, 29 juillet 1970, c'était le 29 décembre. Il y avait bien eu une parenthèse l'année dernière, un crédit de 3 semaines avec les confinements liés à l'épidémie de Covid, mais ça a déjà été effacé. L'étude a retrouvé en chiffres, en graphique sur franceinter.fr.
En Martinique, les hôpitaux sont saturés, les soignants épuisés et l'île reconfinée.
Et pour 3 semaines, au moins à partir de demain, Marc Potvin.
Le confinement et l'attestation de déplacement qui va avec, document indispensable pour se rendre à plus de 10 km de chez soi de 5h à 19h. À 19h, c'est en effet le couvre-feu qui prend le relais, déplacement encore plus restreint. Retour de l'attestation, retour aussi de la règle des 6, comme l'explique Stanislas Cazel, le préfet de Martinique.
La règle des 6, c'est l'idée de ne pas rencontrer plus de 6 personnes en même temps pendant cette période de confinement. C'est pas une obligation, mais c'est une recommandation. Très forte qui a fait ses preuves.
En Martinique, le port du masque est globalement respecté, ajoute le préfet. Conséquence, tous les commerces vont rester ouverts. Fermeture, en revanche, des restaurants où l'on enlève le masque. Ces restrictions seront réexaminées à la mi-août. Elles pourront évoluer en fonction de la situation sanitaire. Pour l'instant, cette situation est grave, selon l'Agence régionale de santé Martinique. Le taux d'incidence est passé de 280 à 995 cas pour 100 000 habitants. Grave aussi parce que les Martiniquais et Martiniquaises sont plus âgés et moins immunisés. Un peu plus de 16% de la population est complètement vaccinée sur place. 51% sur l'ensemble du territoire.
La Martinique reconfinée et l'état d'urgence sanitaire décrété en Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, tandis qu'en métropole, l'obligation de porter le masque en extérieur est décidée sur le littoral du Vaucluse. En Corse aussi, où le concert de Kenji Girac prévu à Bastia a finalement été interdit. Les tests salivaires rapides, mais pas assez fiables finalement, juge la Haute Autorité de Santé, qui recommande à la Sécurité sociale de ne plus les prendre en charge. Ces tests rendent leur verdict en 40 minutes environ à partir d'un échantillon de salive. La nouveauté côté vaccin, c'est le Moderna qui est désormais autorisé aux 12-17 ans. Un moyen de plus de se faire vacciner avant l'extension du pass sanitaire. Les jeunes devront pouvoir le présenter à la fin du mois de septembre, mais pour les autres, le gouvernement a donné une date hier, le 9 août. Il faudra être vacciné ou avoir un test négatif pour aller au resto, monter dans un train. Une obligation qui a poussé la semaine dernière près de 160 000 personnes dans les rues, que ce soit pour dénoncer des mesures liberticides ou carrément contre les vaccins. Un mouvement hétérogène, Maxence Lambrec, mais que le gouvernement ne veut pas comparer avec celui des Gilets jaunes.
Cela n'a rien à voir, lance d'emblée un ministre. Les Gilets jaunes étaient minoritaires mais populaires. Là, il n'y a derrière aucune revendication sociale sur laquelle les Français pourraient se retrouver, ajoute un conseiller. C'est un combat d'irréductible, de complotiste, d'individualiste, entend-on dans les couloirs du pouvoir où les sondages rassurent. 49% de personnes fortement opposées, 16% d'indifférents. Les Français sont en vacances, ils n'ont pas la tête à ça, se rassure un conseiller. Justement, mobiliser 160 000 personnes en plein été, ça devrait peut-être nous interroger un peu plus, glisse un député de la majorité qui voit dans le rendez-vous de ce samedi un test décisif, essoufflement ou radicalisation. On sera attentif, dit-on à Matignon, mais n'en faisons pas un événement. Plus on en parle, plus ils sont contents. Les renseignements territoriaux prédisent dans une note envoyée l'exécutif est publié par le Parisien, que le mouvement durera sans doute tout l'été, mais qu'il lui manque un symbole fédérateur. Le gilet jaune avait été une vitrine, un puissant identifiant pour ces nouveaux manifestants. Les anti-vaccins n'ont pour l'heure ni logo ni couleur.
Maxence Lambrec, ce n'est pas vraiment une surprise, mais c'est désormais officiel. La grande réforme d'EDF, connue sous le nom d'Hercule, est bel et bien reportée après la présidentielle. Une réforme qui se heurte depuis des semaines aux réticences des syndicats d'électriciens et à des négociations européennes difficiles, Laurent Kramer.
Au lancement du projet Hercule, fin 2018, le prix de l'électricité est alors au plus bas. Le gouvernement a donc dans l'idée de séparer l'activité nucléaire d'EDF du reste du groupe pour tenter de valoriser sa production issue du nucléaire. Près de 3 années plus tard, le contexte économique et politique a bien changé. Le prix de l'électricité a retrouvé des couleurs, son niveau le plus haut depuis le début des années 2000. Après la crise des gilets jaunes et la crise sanitaire, les questions de souveraineté et de puissance publique ne vont plus dans le sens d'une forme de démantèlement d'EDF telle que la Commission européenne l'aurait in fine imposé à la France. À quelques mois de la présidentielle, le calendrier législatif est également bouclé. Le gouvernement n'aurait eu que des coups à prendre, à suivre les recommandations les plus strictes imposées par Bruxelles. Le dossier est donc rangé pour le moment sur une étagère en attendant une nouvelle idée d'Emmanuel Macron, estime un spécialiste du secteur, pour remettre la souveraineté et l'avenir du nucléaire français sur le devant de la scène.
Et ce matin, le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, dit regretter ce report, jugeant la réforme indispensable.
8h09 sur France Inter. On repart en Tunisie, 4 jours après le coup de force du président.
Alors que les appels se multiplient en faveur d'une feuille de route pour la mise en place d'un nouveau gouvernement, le président tunisien a-t-il toujours le soutien de ceux qui l'ont élu il y a près de 2 ans? Les jeunes, notamment. C'est le reportage de nos envoyés spéciaux, Benjamin Thuot et Marie-Pierre Véraud.
Dans le quartier de la Goulette, à une dizaine de kilomètres du centre de Tunis, avec la mer pour horizon, les jeunes se reprennent à espérer. Wael avait pris la tête des manifestations anti-gouvernementales dans la journée de dimanche dernier et il applaudit le coup de force du président.
Raïs Essaï, le 25 juillet, on dirait qu'une équipe de foot dans un match. Et Raïs Essaï a marqué le but à 90 minutes.
Amal Bin Nadia, une activiste bien connue, lui sait gré d'avoir ravivé les rêves de la révolution.
C'est révolutionnaire, on peut y croire, mais on a besoin d'avoir des preuves. Donc il faut rester très vigilant. C'est une occasion pour que la rue récupère la révolution qui lui a été prise par les partis politiques. Après, on a besoin d'avoir une feuille de route bien claire. On a besoin que ces 30 jours ne deviennent pas plus que 30 jours parce qu'il a le pouvoir aussi de le faire. Il faut qu'il entende les jeunes.
Comme Omar qui tient un petit kiosque de tabac.
C'est notre Tunisie. Nous, les jeunes, nous voulons reprendre notre pays. S'il fait des faux pas, eh ben, le peuple il va le laisser tomber comme d'habitude. S'il ne part pas sur nos choix, on va le rejeter. Hein.
Le président est prévenu. Les jeunes Tunisiens l'apprécient, mais ils ne baisseront pas la garde. Tunis, Benjamin Thuot, Marie-Pierre Véraud, France Inter.
Cette question à présent, comment lutter contre les rodéos sauvages? Une femme de 20 ans est morte mi-juillet à Amiens, percutée par un motard. Il a été mis en examen hier soir à Bonneuil-sur-Marne dimanche. 3 policiers ont été blessés alors qu'ils tentaient de stopper le rassemblement d'une quarantaine de personnes. Le phénomène touche de nombreuses villes. La mission d'évaluation de la loi anti-rodéo de 2018 est à Lyon depuis hier pour rencontrer élus et forces de l'ordre. Mathilde Imberti, alors. Côté.
Là, on est place Bécourt exactement. Et c'est un des nombreux rodéos que nous avons eu dans le deuxième arrondissement de Lyon.
C'est une vidéo parmi une dizaine d'autres sur le smartphone du maire du deuxième, le républicain Pierre Oliver.
J'en ai encore eu sur ma boîte mail ce matin, des riverains qui se plaignaient de personnes qui étaient soit en moto, soit en quad, soit en voiture, qui roulaient à toute vitesse jusque tard dans la nuit. Hein.
Les rodéos ne se limitent plus à la périphérie. Les images de roues avant et de dérapages tournées sous les fenêtres du maire de Lyon au printemps ont fait vivement réagir. Mohamed Chihi est l'adjoint à la sécurité.
Donc on vient embêter effectivement le maire de Lyon sous ses fenêtres. On n'embête pas que le maire de Lyon d'ailleurs, on embête tout le monde. C'est un phénomène de mode qui est très largement porté par les réseaux sociaux et par certaines formes d'auto-médiatisation.
Jamais d'intervention à chaud sur des rodéos. Les autorités cherchent à identifier les auteurs a posteriori. La ville autorise pour cela l'utilisation des images des caméras de vidéosurveillance.
Le travail, c'est celui en fait qui permet l'identification des véhicules, des trajectoires dans la ville, des lieux de stockage pour réussir à remonter jusqu'à eux et aller les chercher lorsque les véhicules sont stationnés et les conducteurs interpellables.
Depuis le début de l'année, ce sont 20 condamnations qui ont été prononcées pour 100 enquêtes ouvertes, d'après le parquet de Lyon. Dans la moitié des cas, l'auteur présumé du rodéo a pu être identifié. Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
La SPA déborde d'animaux abandonnés. Plus de 11 000 accueillis depuis le 1er mai, surtout des chats. C'est une triste tradition chaque été. C'est un dossier à lire sur franceinter.fr. L'aviron français, décidément, fait briller la France aux Jeux de Tokyo. Oui, nouvelle médaille ce matin en argent, cette fois pour Claire Beauvais et Laura Tarantola. Il se passe pas mal de choses ce matin à Tokyo, donc on va faire un point complet avec vous, Jérôme Cadet. Et on commence par le sourire des deux barreuses, évidemment.
Oui, absolument, avec ce succès de Laura Tarantola et Claire Beauvais, 27 et 33 ans. Elles ont regardé les écrans une fois la ligne franchie, ces deux rameuses, sans aucune certitude, parce qu'elles ont fini dans un mouchoir de poche avec les Italiennes et les Néerlandaises. Finalement, les Françaises sont deuxième médaille d'argent, première médaille de l'aviron féminin depuis Atlanta en 1996. Voilà une neuvième médaille pour les Françaises. Il y aura donc une dixième médaille pour la France dans quelques minutes, puisque l'équipe féminine de Fleuret par équipe vient d'accéder à la finale en dominant l'Italie. Xavier Monferrand, vous avez suivi ce duel par équipe. Les Françaises reviennent de loin.
C'est rien de le dire. Dans le football, on appellerait ça une remontada. On ne veut pas raviver de mauvais souvenirs, mais les Françaises étaient menées de 11 touches d'écart en escrime comme ça par équipe. Franchement, on se dit que c'est plié. Eh bien non, elles ont fait une remontée fantastique, les Françaises, pour finalement s'imposer 45 touches à 43, grâce notamment au dernier duel remporté par Isaora Tibus, la chef de file de cette équipe du fleuret féminin, qui va disputer pour la première fois de son histoire une finale olympique.
Ce sera à 12h55 heure de Paris face à la Russie pour une dixième médaille en or ou en argent. Avant cela, en judo, catégorie moins de 78 kilos, Madeleine Malonga opposée à la coréenne Yoon en demi-finale. Là encore pour une autre médaille, Madeleine Malonga, la troisième étoile du judo français aux côtés de Teddy Riner et de Clarisse Agbenienou.
Jérôme Cadet avec Xavier Monferrand et les moyens techniques de Radio France. Aux Jeux Olympiques de Tokyo, merci à tous les deux, des sourires et de la passion. Il y a pas qu'à Tokyo qu'on en trouve ferveur intacte cette année au Festival international de piano de la Roque d'Antero. seront dans les Bouches-du-Rhône. L'une des rares manifestations à n'avoir pas baissé pavillon en 2020. Et cette année, pas moins de 76 concerts sont prévus, avec passe sanitaire, avec jauge réduite. Mais que ne ferait-on pas pour l'amour du piano, Stéphane Capron?
Tous ces gens qui sont là, je trouvais ça merveilleux.
C'est formidable, elle a raison. Je suis entièrement de ton avis.
L'émotion est grande chez les bénévoles de constater tous les soirs le retour en masse des spectateurs.
Ils ont eu la volonté de continuer malgré toutes les restrictions sanitaires qu'on nous a imposées même jusqu'au dernier moment. Vraiment très très fiers.
René Martin, le patron de la Rock d'Anthéron, aurait pu inviter trois fois plus d'artistes tant la demande de retrouver le public est grande.
Tous les artistes que je rencontrais n'avaient jamais joué depuis 10 mois. Et là, aujourd'hui, ils ont commencé un tout petit peu à reprendre la route des concerts à partir de la mi-juin. Mais c'est vrai que pour eux, c'est une résurrection d'une certaine façon.
Vous pouvez me le signer, s'il vous plaît?
À la Rock, il n'y a pas de barrière entre les artistes et le public. Tous les soirs, ces séances de dédicaces, les fans viennent rencontrer leur idole. Ici, le pianiste Abdelrahman El Bacha.
Je me souviens, j'étais dans la Seine en 78 quand vous avez gagné le concours Anne-Elisabeth à Bruxelles.
Vous faites preuve d'une humilité qui vous vaudra l'immortalité dans vos interprétations.
Cette osmose avec le public est décuplée pour Abdelrahman El Bacha par la rencontre avec la nature.
Quand on est dans la nature, c'est différent que lorsqu'on est dans une très belle salle de concert, même avec une très belle acoustique. Il n'y a plus de murs, il n'y a plus de frontières en fait. C'est beau, c'est une autre manière de l'écouter.
Ah oui, c'est beau. Vous écoutez Abdelrahman El Bacha. Et la 41e édition donc de la Rock d'Anthéron, c'est jusqu'au 18 août.
Il faut y aller absolument. Merci Hélène Philly. Bonne journée. Le temps.
La météo avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Alors Stéphanie Fromentin, le ciel marque une petite pause ensoleillée aujourd'hui.
Oui, c'est une jolie parenthèse dont tout le monde ou presque, va bénéficier. Le temps est donc assez calme aujourd'hui sur le bassin aquitain et le centre-est. L'arrivée du soleil sera parfois retardée par des nuages matinaux. Des ondées vont aussi se propager des Landes au massif central jusqu'aux Alpes du Nord au fil de la journée. Elles pourront tourner à l'orage sur le relief savoyard en soirée. Les éclaircies qui profitent à une large zone ce matin entre la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie et les Hauts-de-France se feront un petit peu plus timides à cause de l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Quelques ondées seront donc possibles sur le nord-ouest cet après-midi. Des nuages vont déborder en début de soirée sur l'île de France, tandis qu'il pleuvra plus certainement sur le Finistère en soirée. Et puis en fin de journée, une autre perturbation se met en place sur le sud-ouest, apportant des pluies et des orages durant la nuit.
Et côté Mercure, on retrouve des couleurs de saison.
C'est ça, 21 à 26 degrés sur la moitié nord, 24 à 32 plus au sud, mais 28 à 36 entre la basse vallée du Rhône et la Corse. Il fera 19 degrés à Pont-Aven, 22 au Sable d'Olonne, 23 degrés à Paris, 25 à Colmar et Biarritz, 27 à Saint-Gervais-les-Bains, 29 à Antibes, 32 degrés à Saint-Jean-du-Gard, 34 à Draguignan, jusqu'à 35 à Alès et Avignon.
Merci Stéphanie, à tout à l'heure. Tout de suite, géopolitique.
Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter.
Et c'est avec vous, Anthony Bélanger. Bonjour.
Bonjour Karine, bonjour à tous.
La Côte d'Ivoire a assisté hier à la réconciliation de deux anciens présidents.
Et oui, l'actuel Alassane Ouattara, 79 ans, et son prédécesseur Laurent Gbagbo, 76 ans. Le premier appelant le second son petit frère, et le second faisant savoir qu'il venait dans un esprit d'ouverture, de dialogue et de réconciliation. C'était beau comme une citation de Lao Tzu. Même le plus long des voyages commence par un premier pas. Celui-là aura attendu une décennie. Les deux hommes ne se sont plus vus depuis novembre 2010 et un débat télévisé d'avant-présidentiel, l'après-présidentiel. En 2010 donc, c'est une guerre civile épouvantable qui a conduit Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale de La Haye, accusé de crimes contre l'humanité. Il a été acquitté en mars et il est de retour au pays depuis juin.
Il est revenu parce que Alassane Ouattara l'a bien voulu.
Alors comment dire ? Pour le coup, l'expression « faire contre mauvaise fortune bon cœur » convient à merveille. Alassane Ouattara rêvait probablement d'un long séjour carcéral en Europe pour son prédécesseur. La Cour de La Haye en a donc décidé autrement. Dans le cas qui nous occupe, cela a voulu dire fournir des passeports à Laurent Gbagbo, lui indiquer le jour de son retour au pays, éloigner ses partisans trop enthousiastes et enfin organiser une rencontre de réconciliation. C'est ce qui s'est passé avant, donc hier. Et comme on n'est jamais trop prudent, eh bien Alassane Ouattara conserve deux moyens de tenir à distance son adversaire. Une peine de 20 ans de prison prononcée par contumace contre Gbagbo et l'épée de Damoclès Damoclès d'un énième amendement à la Constitution.
Et il dirait quoi cet amendement ?
Eh bien, il fixerait un âge maximum pour exercer la magistrature suprême, 75 ans. Ça permet, c'est pratique, oui, ça permet, vous allez voir, d'éliminer de la course donc Laurent Gbagbo, qui a 76 ans, vous l'avez compris, mais aussi le troisième homme de ce triumvirat qui épuise la politique ivoirienne depuis près de 30 ans, Henri Conan Bédier, 87 ans, leur haine recuite, leurs alliances de circonstances, leur prise de pouvoir plus ou moins légitimée par des putschs, des élections douteuses, des modifications à façon de la Constitution, a hystérisé leurs partisans et le débat politique des décennies durant, le pire étant l'invention du concept d'ivoirité par Henri Conan Bédier dans les années 90 et repris presque avec gourmandise par Gbagbo, une sorte de préférence nationale qui avait pour unique vertu d'écarter un Alassane Ouattara réputé plus burkinabé qu'ivoirien. 3000 morts à la clé tout de même.
Ils sont irréconciliables, ces trois-là.
Même Alassane Ouattara, qui avait pourtant été la victime des deux autres, a fini par céder à la politique aïrie la plus déshonorante en se représentant pour un troisième mandat en 2020 contre toutes ses promesses et la constitution du pays, une nouvelle fois modifiée, vous l'avez compris. Alors, sont-ils irréconciliables pour répondre à votre question ? Eh bien, je vous ne répondrai que ce n'est même plus la question. Ils s'épient, ils se jaugent, ils rêvent de prendre leur revanche. Et ce, quand les trois quarts des Ivoiriens n'étaient même pas nés, quand leur rivalité était déjà assez mûre pour nuire à tous.
Merci Anthony Bélanger. Et après la Côte d'Ivoire, on parle ce matin d'Afghanistan dans le Grand Entretien.